Bonjour à toutes et à tous. Pour ce nouvel épisode du Japon en perspective, ce n'est pas un entretien, mais une conférence donnée par la professeure des universités Nathalie Kwame dans le cadre des séminaires itinérants de la SFEJ que vous allez pouvoir écouter. Dans celle-ci, elle présente son ouvrage Naissance et affirmation du Japon moderne 1392-1709, publié en 2024 aux Presses universitaires de France. Cette conférence a été organisée par Aude de Meserac Zanetti et Cyrian Picloux, avec le soutien de l'Institut universitaire de France, et s'est tenue à l'Université de Lille le 18 novembre 2025. Je vous en souhaite une excellente écoute.
Je vais commencer par une petite présentation avant de passer la parole, bien sûr, à Nathalie Kwame. Donc, c'est un grand plaisir pour nous aujourd'hui d'accueillir Nathalie Kwame, professeure d'histoire de l'Asie, Japon, Asie orientale, à Paris Cité. Je vous remercie chaleureusement, Nathalie, d'avoir répondu positivement à l'invitation de Cyrian Picloux, de la section japonais de la FLCS et du laboratoire Cécile. Cette séance de séminaire est organisée du coup conjointement par l'axe 5 R Asie et l'axe 3, pouvoir, société et culture de notre laboratoire interdisciplinaire. Enfin, cette manifestation a reçu le soutien de et l'aide de la Société française d'études japonaises, ainsi que de l'Institut universitaire de France. Il est parfaitement inutile de présenter Nathalie Kwame aux spécialistes des études japonaises qui sont présents nombreux aujourd'hui, ici à Lille, ainsi qu'en distanciel via le Zoom. Mais pour les étudiantes et les étudiants, pour d'éventuels collègues qui, comme moi, n'ont du Japon qu'une connaissance très floue, je voudrais mettre en exergue quelques lignes de force des nombreux travaux de Nathalie Kwame, dont vous retrouverez facilement la liste complète sur le site du CESMA, le Centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques. Son analyse de l'histoire du Japon, et en particulier celle du moment missionnaire, est située dans une perspective globale, mondiale, et si je puis dire, doublement décentrée. Une histoire qui s'écrit ni du seul point de vue insulaire, ni du point de vue européen. Deuxième ligne de force, ces travaux révèlent une sensibilité à la géographie qui me semble importante, plus particulièrement à la dimension insulaire et aux particularités que cela implique. Enfin, les travaux de Nathalie Kwame portent depuis longtemps un intérêt très vif pour les questions historiographiques et les modalités de l'écriture de l'histoire. Veuillez me pardonner ce choix nécessairement réducteur. J'ai bien entendu sélectionné des éléments qui sont saillants pour moi. D'autres insisteraient sur bien d'autres aspects de votre travail. Ceux-ci le sont pour une spécialiste de l'histoire religieuse de l'Angleterre du XVIe siècle. Mais je crois qu'en procédant ainsi, je réponds à l'invitation de Michel de Certeau à assumer pleinement une parole située afin qu'elle soit un point de départ vers le lieu de l'autre. Une expression. Un titre des titres de ces ouvrages. Donc, votre monographie de 2016 est consacrée aux 20 premières années de la mission jésuite au Japon et aux prémices de cette étonnante rencontre des cultures et des religions. Comme le souligne votre titre, le christianisme à l'épreuve du Japon médiéval et surtout son sous-titre, ou les vicissitudes de la première mondialisation, 1549-1569, vous mettez au jour les motivations socio-économiques et donc globales qui informent les tournants décisifs de la mission chrétienne au Japon, et en particulier les motifs politiques, sociaux, économiques qui se sont jointes à l'élan missionnaire pour pousser François-Xavier à choisir le Japon comme lieu de mission, ou encore les raisons qui ont pu motiver la conversion au catholicisme du premier seigneur japonais, Omara Sumitada, j'espère le prononcer correctement. Vous offrez aussi une lecture de ses premiers contacts, notamment entre missionnaires et moines bouddhistes, comme un dialogue interculturel. Du point de vue des jésuites, il y a bien sûr tentative de conquête spirituelle essentiellement, mais non sans arrière-pensée commerciale et politique. En citant abondamment et longuement les sources, vous examinez comment les concepts chrétiens sont traduits en japonais dans le vocabulaire bouddhique, de manière à faire comprendre et le cas échéant accepter aux interlocuteurs japonais ce dogme en lui laissant l'apparence d'un enseignement bouddhique. Dans sa préface, j'ai été frappée par ce que dit Claude Prudhomme qui parle de la conversion de ce premier seigneur japonais comme un malentendu productif, a working misunderstanding. C'est un concept forgé par l'anthropologue américain Marshall Salins dans un ouvrage consacré à d'autres îles, Hawaï, qui lui-même l'a trouvé chez un anthropologue africaniste. Il y a vraiment une circulation de ces concepts et de ces notions. Cependant, l'absence du mystère de la passion du Christ dans ce discours, évitement d'un sujet trop difficile à assumer dans la, à assimiler dans la culture japonaise, vous conduit à poser une question un peu iconoclaste. Que reste-t-il de la doctrine chrétienne si le Christ n'y est pas? Doit-on alors penser que la mission de François-Xavier s'achève en une forme d'aporie? Deuxième grand moment de ce qui m'a frappé dans vos travaux. Après le choc parfaitement européen, pour reprendre une structure franco-française, ce choc euro-européen que représente le Brexit, vous publiez un livre sous forme de dialogue avec Jean-François Dugnac autour de la question de l'insularité, ouvrage consacré au Japon, bien sûr, et à la Grande-Bretagne. Là encore, vous invitez les anglicistes et peut-être aussi les japonologues à un décentrement par l'espace qu'ouvre l'approche comparatiste. Vous identifiez comment ces îles, toutes deux plurielles et plus ou moins archipels, ont été façonnées par les conquêtes et se sont constituées en États. Comment se dessinent les rapports entre centre et périphérie dans ces États insulaires, alors que ces îles sont elles-mêmes tantôt en marge, tantôt puissance impériale? Au fond, nous avons une question commune. Que façonne l'insularité? En 2014, vous avez dirigé un collectif qui s'intitule Historiographie d'ailleurs, comment écrit-on l'histoire en dehors du monde occidental? Cet ouvrage explorait les différentes stratégies mises en œuvre par les historiens de pays colonisés dans leur rapport aux puissances coloniales. Balayant de multiples aires géographiques, dont bon nombre, je remarque, étaient sous domination britannique, on voit se déployer de multiples approches, de la célébration du pouvoir en place à la critique, en passant par l'adhésion et le désir d'exercer une forme de conseil en écrivant l'histoire. Vous avez continué ce travail collaboratif en dirigeant avec Éric Meyer et Anne Viguier l'encyclopédie des historiographies Afrique, Amérique, Asie. Ce vaste ouvrage, disponible en accès libre, je vous le recommande, via Lilocat, vous le retrouvez tout facilement, via Open Edition, a pour but de faire connaître et valoriser des historiographies ignorées, je reprends une de vos expressions, à offrir un panorama vaste des récits qui existent. Cette entreprise est fondée sur l'idée que le récit historique est, je cite, l'une des expressions de la si précieuse diversité des hommes et des sociétés. Aujourd'hui, vous venez nous présenter votre dernier ouvrage, Naissance et affirmation du Japon moderne, 1392-1709, Relations internationales, État, société, religion, publié au PUF en 2024. Ce titre, Naissance et affirmation, est bien sûr très évocateur pour une spécialiste de la réforme et aiguise l'appétit pour découvrir cette histoire concomitante de celle qui m'intéresse, mais tout autre dont vous allez nous parler aujourd'hui.
Alors, je vais commencer sans surprise par remercier très très chaleureusement tous mes collègues de Lille qui m'accueillent et de voilà et de leur invitation donc scientifique qui m'honore. Je vais pas les citer les uns après les autres, vous les connaissez, ce sont vos professeurs. Mais voilà, je leur sais vraiment gré de cette invitation et de même j'ai remercié la Société française des études japonaises, la SFEJ, qui a un séminaire itinérant et qui donc semble d'accord pour l'invitation de mes collègues à parler, à vous présenter. Donc c'est un exercice un peu difficile. Cet ouvrage que j'ai oublié d'emporter, pardon, que j'ai fait paraître donc au PUF l'année dernière, en 2020, Naissance et affirmation du Japon moderne, 1392-1709. Donc ce livre, je le disais, est paru en 2024, en janvier 2024, si je compte bien, nous sommes au mois de novembre 2025, ça fait donc presque 2 ans. Mais donc les vicissitudes comment dire, du métier d'éditeur ont fait que ce livre a été achevé il y a 3 ans, en fait. Et évidemment, je me pose aujourd'hui la question de savoir si 2 ans, 3 ans suffisent pour prendre du recul avec un livre, en l'occurrence celui-ci, et vous le présenter de manière distanciée. Alors, je me suis posé la question, je n'ai pas réfléchi bien longtemps, et j'ai trouvé la réponse dans un poème de Basho. Si vous êtes des étudiants de japonais, vous connaissez tous le célèbre poète Basho qui date du XVIIe siècle, donc qui clôt la période de mon livre. Et voilà donc ce que ce poète m'offre en guise de réponse. Ai-je vraiment suffisamment de recul vis-à-vis de ce livre que je vais vous présenter? Ce poème de Basho, donc je vais reprendre la traduction de Kenmoku Makoto et de Dominique Chipot. Le voilà en japonais. Kochyo Nimo Nalade Akifuru Lamushi Kana. Ce qui, dans leur traduction, veut dire, alors le sens est profond, s'emmuer en papillon, une chenille passe l'automne. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'en gros, l'automne passe, la chenille ne devient pas papillon. Voilà, donc moi-même, je ne suis pas devenue papillon depuis le point final mis au manuscrit de cet ouvrage. Autrement dit, je ne serai pas aujourd'hui, en novembre 2025, le réécrire de manière différente, si on me le demandait. Ou bien alors, il me faudrait disposer de nombreuses années de réflexion. Car en dépit de son allure de manuel, et je reviendrai sur cette notion de manuel, naissance et affirmation du Japon moderne expose un certain nombre d'idées personnelles que j'ai forgées au cours alors d'années, pour pas dire de décennies, je reste coquette officiellement, de plusieurs années d'études, voire d'enseignement, puisque l'enseignement est toujours source d'enrichissement personnel. Alors, un livre, un manuel, comme le sont tous les manuels de la collection dans laquelle il est paru, c'est la collection Nouvelle Clio, qui a eu ses heures de gloire autrefois, des presses universitaires de France. Il s'agit pour cette collection de manuels, dont les auteurs se soucient des rééditions, c'est-à-dire entendent fonder leur discours historique sur la connaissance précise et critique des sources primaires référencées, pour offrir ainsi à leurs lecteurs la possibilité de vérifier l'exactitude de leurs propos. Voilà, là, vous me verrez aller à définir des choses de base. Donc voilà ma définition de la réédition. Sur ce plan, donc sur le plan du caractère, on va dire, érudit et du caractère manuel de naissance et affirmation du Japon moderne, il ne déroge pas à la règle imposée par la collection Nouvelle Clio et présente très concrètement, en traduction française, parfois les miennes, enfin assez souvent les miennes d'ailleurs, mais parfois empruntées à des collègues, un certain nombre de textes japonais d'époque, donc médiévaux ou modernes, comment dire, donc pour appuyer mon propos. Alors de même, en ce qui concerne le respect vis-à-vis de cette collection Nouvelle Clio, j'ai suivi la trame classique de cette collection. J'ai fait une grande partie, et quelle ne fut pas mon émotion quand j'ai intitulé donc la première grande partie Nos connaissances, puisque Nos connaissances, ça fait partie, voilà, enfin, c'est une partie classique dans cette collection, Nos connaissances. Et ensuite, vous trouvez dans Naissance et affirmation du Japon moderne une seconde partie consacrée à la fabrique de l'histoire, c'est-à-dire aux sources primaires. À l'historiographie. L'historiographie, c'est l'histoire de l'histoire. Donc, en gros, comment les historiens japonais ont-ils travaillé sur la période 1392-1709? Et ensuite, dernière partie, et d'ailleurs, c'était le gros succès de ces manuels de la Nouvelle Clio autrefois, une bibliographie relative à la période présentée. Donc, jusqu'à présent, je vous ai dit 1392-1709, mais en gros, je traite des 15e, 16e et 17e siècles japonais. Alors, résolument fidèle à la collection, comme le disait ma collègue, je me suis même inspirée du titre d'un des auteurs et d'un des directeurs de cette collection. Alors, vous êtes japonologue, je ne sais pas si vous le connaissez, il y a peu de chance, et vous êtes jeune, mais voilà, le grand historien qui s'appelait Jean Delumeau, qui avait publié dans cette collection en 1965, ça fait très longtemps, un ouvrage intitulé Naissance et affirmation de la réforme. Et là, je vais vous dire tout de suite pourquoi j'ai choisi ce titre. Quand on m'a commandé l'ouvrage, je suis rentrée chez moi, je me suis dit, tiens, je vais voir un peu à quoi ressemble une nouvelle Clio. J'ai trouvé ça dans ma bibliothèque personnelle et je me suis dit, voilà, mon bouquin, il va s'appeler comme ça, je vais juste mettre Japon à la place. Voilà, j'ai pas vraiment longtemps réfléchi. Alors, lorsque on m'a commandé l'ouvrage, c'est l'ancienne directrice de la collection, co-directrice de la collection, Charlotte de Castelnau, qui est aujourd'hui professeure à Sorbonne Université, On m'a donné entièrement carte blanche pour définir le thème de la période, pour définir le thème, pardon, et la période. Et là, quand même, tout en respectant l'aspect manuel, érudition, donc titre emprunté, etc., de la collection, j'ai fait preuve d'un tout petit peu d'indépendance d'esprit en choisissant de traiter du Japon. Et là, oserais-je le dire, parce que bon, je suis enregistrée l'air de rien, je ne fais pas semblant, oserais-je le dire publiquement, du Japon qui me fait rêver. Voilà. Le Japon qui me fait le plus rêver, je dirais. J'ai plusieurs Japons, comme vous tous d'ailleurs, mais celui-ci, 1392-1709, c'est celui qui me plaît. Alors, je ne pense pas que le terme de rêve, rêver au Japon, fasse partie des concepts et des problématiques historiographiques qui sont actuellement les plus en vue. Mais voilà, j'estime que aujourd'hui, là, en 2025, là où j'en suis arrivée, en fait, je voulais parler de mon âge, mais je vais m'en abstenir, vénérable. Je n'ai plus aucune raison de justifier le choix des thèmes de mes publications, donc en les présentant de manière extrêmement rationnelle, voilà. Je pense que j'écris bien, alors non pas tout à fait ce que je veux, parce que je suis historienne, donc sérieuse et contrainte par les sources, mais au moins ce sur quoi je veux. Voilà, donc le Japon médiéval et moderne. Alors, je vais quand même jouer le jeu d'une conférence publique enregistrée. Je vais quand même vous apporter ce soir quelques réflexions sur le comment et le pourquoi scientifique. Et je fais partie des gens qui utilisent le terme scientifique pour l'histoire, surtout aujourd'hui d'ailleurs, où, voilà, où on dit un peu n'importe quoi. Donc voilà, sur le pourquoi et le comment scientifique de ma démarche, c'est même, si j'ai bien compris, l'objectif de notre rencontre, évoquer la fabrication, d'un livre. Et comme je le disais tout à l'heure, donc non pas évoquer, faire un cours d'histoire, mais évoquer la manière dont on fabrique un livre. Alors je vais commencer par le commencement et je vais commencer par le titre de mon ouvrage, qui est en entier. Alors bon, ça fait 10 fois que je vous dis, et comme ça, vous allez peut-être vous endormir ce soir et vous lever demain matin en disant, je commande sur Amazon, Naissance et affirmation du Japon moderne, 1392, donc fin 14e siècle. Hein. Donc, mais en fait, je traite plutôt le 15e, 16e, 1709, donc tout début du 18e, mais je m'arrête à la fin du 17e siècle. Et le sous-titre, Relations internationales, État, société et religion. Alors, c'est sur le document, comme ça, j'y ferai souvent référence et je vais me servir de ces quelques points de repère pour parler de ce livre. Alors d'abord, je vais commencer par ce qui m'a coûté le plus. Donc il faut que je fasse attention là parce que ce n'est pas tout à fait ce que j'ai écrit. C'est-à-dire d'utiliser l'épithète de moderne, naissance et affirmation du Japon moderne, qui d'après, pour cette période, 15e, 16e, 17e siècle, qui d'après les toutes premières réactions dont on m'a fait part à la sortie de l'ouvrage, réaction spontanée, donc sous forme des paroles ou sous forme de recension, a suscité l'étonnement. Voilà, parler du Japon moderne pour le 15e, 16e, 17e siècle. Parfois le soulagement, oh, vous osez parler du Japon moderne pour ces périodes-là. Parfois aussi l'incompréhension, quelqu'un ayant même cru comprendre que je qualifiais le 14e siècle japonais, puisque je commence en 1392, comme un siècle moderne, enfin comme étant celui du Japon moderne. Évidemment, ce n'est pas du tout le cas. Pour moi, comme la majorité des historiens japonais et des japonologues occidentaux, le XVIe siècle est bien le moment de bascule entre le Japon médiéval et le Japon moderne. Et donc le Japon médiéval ou le Japon des temps modernes, puisqu'il s'agit bien de cela, on peut presque dire le Japon de l'Ancien Régime également, pour parler donc de ces XVIe, XVIIe et siècles suivants. Alors, comme j'étais à peu près la seule quand j'ai préparé le livre, donc j'ai mis 4 ans à l'écrire, j'étais à peu près la seule dans le milieu de la japonologie à utiliser le terme de moderne pour cette période-là. Eh bien, j'ai consacré toute l'introduction de l'ouvrage à cette épithète. Alors, je rappelle que, en gros, quand on parle d'époque moderne, on commence dans les années, enfin, 1560. C'est l'époque où Oda Nobunaga commence à devenir quelqu'un d'important. On en parle jusqu'à la restauration de Meiji, donc 1867-68. Et pourtant, Allez savoir pourquoi. Je sais pourquoi, mais là, c'est clair, je me tiendrai. Depuis les années 2010, donc je ne sais pas si vous étiez né à l'époque encore. Si. C'est un compliment. Hein. C'est un compliment. Hein. Le qualificatif de pré-moderne depuis les années 2010 est devenu à la mode, tout à coup. Tout le monde parlait de pré-moderne et j'ai même entendu un jour quelqu'un employé par écrit, c'est toujours pour faire le poème de les écrits restent, les paroles s'envolent de zut. Prévert, bien sûr. J'ai même entendu un jour quelqu'un utiliser, sans l'expliciter et pour cause, le substantif de prémodernité. Wow. Qu'est-ce que la prémodernité? Alors voilà, les 9 pages de mon introduction tentent de justifier le retour à l'usage traditionnel de cette épithète de moderne pour parler du Japon entre le 16e et le 19e siècle. Car donc à l'époque, il n'était pas tout à fait confortable pour moi d'aller seule à contre-courant. D'abord, je vais vous expliquer pourquoi donc j'ai choisi moderne et pas pré-moderne. Vous trouvez partout du Japon pré-moderne sur Internet. Hein. D'abord, il me semble que l'épithète est le seul mot français à pouvoir traduire, et là vous allez me comprendre puisque donc j'ai un parterre de japonologues, le mot japonais de kinsei, qui comme vous le savez veut dire donc époque ou âge ou période, etc. Kin, qui est proche, c'est-à-dire le sens originel de moderne, même en France. Et voilà, donc kinsei, il n'y a absolument pas d'idée d'intériorité, il n'y a pas le zen de zen kindai ou je ne sais quoi. Kinsei, c'est moderne. Deuxièmement, mon esprit cartésien fait que je suis extrêmement gênée, donc j'avance un peu l'argumentation, par le fait que l'épithète de prémoderne définit une époque parce qu'elle n'est pas prémoderne. Ça veut dire qu'elle n'est pas moderne, ou alors ça veut dire qu'elle n'est pas encore moderne, ou pas encore tout à fait moderne. Donc en gros, on définit une époque, quelque chose, parce qu'il n'est pas. Ça me gêne. Ensuite, je pense qu'en France, où nous utilisons donc pas si fréquemment la notion de première modernité, pas si fréquemment, avec un peu, avec pas tellement, et puis bon, c'est un peu à la mode, enfin je veux dire, c'est moins lourd que moderne. Donc cette première modernité, et qui ne sert à rien d'autre qu'à traduire le early moderne des britannisants, enfin des anglo-saxons. Donc en France, le qualificatif de moderne est utilisé pour désigner la période qui va du 16e et du 18e siècle. Et voilà, parmi les autres rêves que j'ai, il y a celui de la comparaison. Et je me lance même dans l'introduction une espèce de comparaison entre la France moderne et le Japon moderne. Si je mets pré-moderne, ça marche plus. Voilà. Enfin, je veux dire, il permet cette épithète de pointer de nombreux points communs entre la France, l'Angleterre, l'Allemagne, etc. moderne, et le Japon des 16e, 19e siècle. Et enfin, quatrième et dernier élément qui me font préférer le terme de moderne, et encore, remettez-vous dans. Vous écrivez tout seul votre livre dans un coin, vous écrivez moderne sur la couverture. En fait, vous prenez un peu des risques, donc c'est pour ça que j'insiste et je ne dirai qu'une quatrième et dernière chose concernant donc les origines et le caractère occidental du découpage de l'histoire japonaise. Vous savez qu'on distingue Genshi, une époque primitive, Kodai, époque donc antique, Chuusei, époque médiévale, et donc Kinsei. Et Kinsei, époque donc moderne, et Kindai, que moi j'appelle époque contemporaine, je rappellerai que ce découpage du temps a été adopté par les Japonais dans les années 1900, vraiment dans les années 1900, 1903, 1904, etc. Non pas pour servilement, comment dire, plagier l'Occident, qui avait déjà adopté donc ce découpage, mais pour affirmer. Donc à l'époque, dans les années 1900, que l'histoire de leur archipel, acculée, vous le savez, depuis les années 1850, à l'ouverture, on va dire totale, non sélective, que l'histoire de leur archipel valait bien celle des puissances impérialistes. Du coup, il y a dans le titre Japon moderne un petit zeste de militantisme de ma part, que je reprends des auteurs, de mes collègues, de mes prédécesseurs japonais de ces époques impérialistes. Enfin, disons, d'un impérialisme d'un autre genre, parce que, fort heureusement pour l'historien, l'impérialisme n'a pas disparu. Enfin, je veux dire, il fait encore objet d'études. C'est ce que je veux dire par là. Alors, reste le problème de l'épithète de l'appropriation de l'épithète, reste le problème, pardon, de l'appropriation de l'épithète moderne par tous les spécialistes qui, ici, en Occident, étudient donc les époques Meiji, je rappelle 1868-1912, Taisho, 1912-1927 et Showa, 27, et là on va aller juste simplement en 45. Pendant ce laps de temps, donc, vous avez des spécialistes japonologues qui nous parlent d'un Japon moderne et qui nous parlent même de sa modernisation. Alors que leur dire? Que pourrais-je leur dire à mes collègues d'empiéter sur leur plate-bande? Eh bien, j'ai trouvé la réponse. Je ne vais rien leur dire. Ils font bien ce qu'ils veulent. Ils font bien ce qu'ils veulent, car le métier d'historien, et là je reprends la belle expression de Marc Bloch, qui va entrer au Panthéon en 2026, le métier d'historien consiste, par-delà les rêves de ses praticiens, en la recherche et l'expression d'une vérité historique, mais dans cette recherche, la liberté de penser et de dire en est un élément essentiel. Voilà. Alors, pour ma part, quand même, sérieusement, il se trouve que je n'ai jamais trouvé le temps, ni même l'envie, de réfléchir sérieusement aux liens existants entre les temps modernes et la période contemporaine du Japon, donc la fameuse période qui serait elle aussi moderne, les ères Meiji, Taisho et début Showa. Alors, bien sûr, à l'instar de bien d'autres japonisants, je subodore les rapports de cause à effet entre donc les temps modernes, qui ferait de ces temps modernes le socle de la modernisation, en japonais Kindaika et non pas Kinseika, de la modernisation de l'archipel à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. Et je connais même mes classiques sur la question donc de ce passage à ce qu'on appelle l'époque enfin de la modernisation du Japon. Par exemple, je connais la position de l'historien Takahashi Kōhachirō, celle du philosophe Maruyama Masao et celle du sociologue américain Robert Bella. Alors, en un mot, le premier, Takahashi Kōhachirō, considérait que la question agraire, telle qu'elle était héritée de l'époque des Tokugawa, était, je le cite, une pierre angulaire de la révolution de Meiji. Le second, Maruyama Masao, donc le philosophe, a défendu l'idée que la pensée d'un philosophe que vous connaissez peut-être, Ogyu Sollai, du 18e, enfin, à cheval 17e, 18e, contenait les germes d'une modernité proprement japonaise. Et quand il parlait de modernité, il pensait à Kindai, hein, Maruyama Masao. Quant au troisième, donc, le très weberien Robert Vella, weberien donc, qui s'inspire de Max Weber, il pensa pouvoir trouver le ferment de l'économie japonaise contemporaine, donc en gros de son capitalisme, dans l'éthique des religions de l'époque des Tokugawa, 17e, 19e siècle. Donc voilà mes classiques sur le passage de l'époque moderne à l'époque moderne. Enfin, entre guillemets, pour le deuxième épithète. Alors, il se trouve que dans mon livre, il n'est absolument pas question de tout cela. Voilà. Je n'en parle absolument pas puisque je me concentre, notamment dans la période, dans la partie nos connaissances, 1392-1709, sur cette période, et je n'aborde pas ce qui va après, je ne me lance pas, dans cette réflexion. Alors, cet exposé n'est pas un livre n'est pas un exposé sur l'histoire, mais je vais quand même vous rappeler deux, trois dates historiques et deux, trois faits historiques. D'abord, 1392, d'autant plus que c'était tellement évident pour moi quand j'ai écrit l'introduction, j'étais tellement obsédée par cette histoire de pré-moderne et moderne que j'ai oublié dans l'introduction d'expliciter ce qu'étaient les dates 1392 et 1709. Il est temps de le faire. Alors, 1392 marque la fin de la période dite des deux cours, Nanboku-chō, Jidai. Qui avait vu deux cours impériales, donc rivaliser l'une contre l'autre, se faire même la guerre pendant près de 60 ans et contester mutuellement leur légitimité. La Cour du Nord, comme son nom l'indique, Cour du Nord, Cour du Sud, ça vient bien sûr de Chine, l'appellation, mais elle se trouvait à Kyoto et la Cour du Sud se trouvait au sud, dans la région de Yoshino, d'où les appellations. La Cour du Nord, qui règne encore aujourd'hui, soit dit en passant, au Japon, avait le soutien des shoguns de la lignée des Ashikaga. Alors ça, c'est pour 1392. Quant à 1709, ce fut celle de la mort, alors d'un des shoguns au XVIIe siècle, les shoguns sont vraiment des personnalités exceptionnelles. Celui-ci aussi. Son petit nom, c'est Tsunayoshi. C'est le cinquième de la lignée des Tokugawa. C'est le fameux shogun chien. Je n'aimais pas tant que ça les chiens. D'ailleurs, je crois qu'il n'en avait même rien à faire. Mais voilà, il a abrité, il a fait abriter les chiens par la population d'Edo. Et donc, il est mort en 1709. Et voilà donc pour l'explication de ces deux dates. Alors, je crois que l'on peut dire que l'une des particularités de mon livre, si on le replace dans la production de la japonologie occidentale, tient à ce qu'il évoque finalement entre 1392 et 1709. Il évoque sur la longue durée la transition donc entre le Moyen Âge et les temps modernes du Japon. D'habitude, quand on évoque cette transition, il y a même un mot japonais que je vais vous apprendre dans un instant. En gros, on parle du XVIe siècle, quoi. Mais bah, à la limite, on va chercher au début à la fin du XVe siècle. Mais voilà, on ne prend pas la totalité du XVe siècle et on ne prend pas la totalité du XVIIe siècle pour parler de cette transition. Alors, juste un mot sur le terme de transition. Il est de bon ton chez les historiens de parler de transition. Mais ne soyons pas dupes, évidemment, toute seconde qui passe est transition. Toute semaine, mois, année, alors on peut faire décennies, centaines d'années, millénaires, etc., sont transition. Mais il se trouve que cette notion d'historiographie de transition est quand même bien pratique, puisqu'elle nous renvoie tout simplement au passage d'une époque qui se distingue d'une autre. Et sur ce point, je répondrai à la question posée par l'éminent médiéviste que fut Jacques Le Goff, qui, pas très loin de mourir d'ailleurs, disait posait la question de savoir s'il fallait vraiment découper l'histoire en tranches. Bon, le terme tranche n'est pas très beau, mais ce n'est pas moi qui l'emploie. Et la réponse est oui, bien sûr. Donc, une fois que vous la découpez en tranches, reste le problème de la transition. Alors, en ce qui concerne la transition, donc il s'agit celle du Moyen Âge et celle de l'époque moderne. Je vous rappelle que le Moyen Âge, c'est 12e, 16e, époque moderne, 16e, 19e. Voilà. Compte tenu de l'excellence absolue de l'historiographie japonaise, et je pèse mes mots, puisque j'en reparlerai plus tard, là, pour le coup, ça fait rêver, cette historiographie japonaise, il va de soi que la transition entre Moyen Âge et époque moderne, entre Chiusei et Kinsei, a été pensée par les historiens japonais, bien sûr. Hein, je ne suis pas la première, loin de là. On parle, donc le mot que je voulais vous apprendre, on parle de Chiu-Kinsei-po, Ikkō, pardon. Donc Chiu-Kinsei, époque médiévale et moderne, Ikkō, la transition. Elle a été donc déjà traitée au Japon. Je vais citer juste trois mots, histoire d'avoir l'air un peu savante. Et voilà. D'abord, un auteur pour les années 50 qui a fait beaucoup couler d'encre à son époque. Il était marxiste, comme beaucoup d'historiens à l'époque. Il s'appelle Araki Moriaki. J'en parle dans mon ouvrage, donc je ne vous le présente pas. Ensuite, un merveilleux historien, plutôt des années 70-80, qui s'appelle Asao Naohiro, qui a aussi beaucoup parlé de la transition, Moyen-Âge, époque moderne. Et puis, plus récemment, dans les années 2010, vous avez les recherches d'Ike Susumu, Ikegami Hiroko, Ukubo Kenichiro. Et là, j'ai vérifié sur Kinokuniya. Je me suis dit que j'allais être enfin, vraiment être à la page 2025. Vous trouvez encore un ouvrage écrit par un certain Suzuki Masanori que je ne connaissais pas sur cette fameuse transition Moyen-Âge moderne. Donc voilà, là-dessus, rien de nouveau, si ce n'est donc cette longue durée. Alors, je vais maintenant vous dire comment je parle de cette transition, comment je la présente dans mon ouvrage. Je dirais presque métamorphose, plus que transition. Le Japon se métamorphose littéralement entre 1392 et 1709, si bien que l'on peut dire que le Japon de 1709 n'a plus rien à voir avec celui de 1392, sauf bien sûr tous les héritages qu'il récupère de 1392, l'idée d'un shogun, la cour impériale, etc. Mais ce Japon de 1709, c'est un autre Japon. Alors, concrètement, pour donc vous présenter ces transitions, je vais reprendre l'une après l'autre les quatre rubriques du sous-titre du livre, Relations internationales, État, Société, j'en parlerai un tout petit peu parce que je ne peux pas parler de tout, et Religion. Alors, je dirais sur ce chapitre que l'un des faits majeurs de la transition entre 1392 et 1709, c'est clairement la très nette affirmation, d'où le titre de l'ouvrage d'ailleurs, du Japon à l'extérieur de ses frontières comme puissance régionale. J'entends ici par régionale l'Asie orientale, mais aussi un peu quand même l'Asie du Sud-Est, vous comprendrez pourquoi dans un instant. Alors évidemment, pendant toute l'époque, hein, 15e, 16e, 17e, la puissance, la première puissance d'Asie orientale, et même d'Asie, et même peut-être du monde, ça va leur faire plaisir. C'est bien sûr la puissance des Chinois, des Ming d'abord, jusqu'au XVIIe siècle, et ensuite à partir du milieu du XVIIe siècle, de la dynastie des Qing. Le grand État, comme donc le grand État pour qualifier donc la Chine, comme pour reprendre l'expression de Timothy Brooke, donc cette grande puissance qu'il est à tous les niveaux, démographique. Il y a beaucoup de monde, diplomatique, économique, politique, culturel, etc. Il n'empêche que le 16e, enfin la période entre le 15e et le 16e, est celle où les Japonais apparaissent, il faut quand même bien le dire, pour la première fois de leur histoire. J'ai toujours l'habitude de dire en cours que le Japon n'intéresse personne jusqu'au 16e siècle. C'est vrai. C'est un bout du monde. Il n'intéresse personne. Donc, du coup, on n'y va pas. Bon, eh bien, ces Mongols qui lui ont fait l'honneur de deux incursions au 13e siècle. Kublai Khan avait en tête donc de revenir au Japon, il l'a pas fait. Après, l'idée n'a pas été reprise. Voyez-vous, un pays qu'on ne va même pas envahir. Donc, mais qui, entre le 15e et le 17e siècle, devient un acteur incontournable de la région, c'est-à-dire de l'Asie orientale. Cela signifie que, très concrètement, la vie des Japonais, enfin en tout cas de leurs dirigeants, que leurs intérêts, ça c'est plus important, comptent dans le déroulement des faits et dans le rapport des forces internationaux. Alors, mon ouvrage décrit, mais il faut le lire de bout en bout, hein, parce que voilà, ce que je vais vous dire là, je le résume, mais en fait, il faut lire les trois chapitres successifs de nos connaissances. Décrit ce phénomène de montée en puissance du Japon, tout à fait exceptionnel. Donc j'adopte un plan chronologique et j'ai toujours une partie relation internationale dans chacun des... En plus, enfin, c'est le hasard, ça tombe bien, au 15e, c'est un Japon particulier, au 16e, c'est un autre Japon, au 17e, encore un autre Japon. Donc mon propos colle à notre découpage en siècle. Et je décris donc chronologiquement, je disais, alors je vais vous citer pêle-mêle, un peu à la Prévert. Les intentions dominatrices des Japonais à l'égard des Ainu dès le XIVe siècle, ça c'est nouveau. Bon, il faut dire que les Ainu, on n'en parle pas avant le XIVe siècle, mais bon, voilà, quand même, des exportations massives de métal argent, quand même, qui fait que le Japon a été un des premiers producteurs du monde à un moment de métal argent, à partir donc du milieu du XVIe siècle. Je parle également de la multiplication à l'international de ces fameux quartiers japonais, Nihonmachi, terme d'époque. Donc, on s'installe et on fait du commerce ici et là en Asie, Asie du Sud-Est, Asie du Sud. J'y parle également donc des ambassades japonaises qui ont fait le tour du monde jusqu'au Mexique, jusqu'à Rome, et qui renforce la visibilité du Japon à l'échelle internationale. Le Japon, on le connaît à partir du XVIe siècle, pour l'ensemble du monde, j'entends. Bon, c'est aussi celui de la première mondialisation, et ça, c'est complètement nouveau pour lui. Je parle évidemment des vastes opérations militaires de Toyotomi Hideyoshi dans les années 1590, qui sont là sans précédent, sans aucun précédent dans l'histoire du Japon. J'y reviendrai un peu plus tard, et c'est un des plus grands conflits de la planète à l'époque. Je parle de la mainmise des samouraïs de Satsuma sur une partie en tout cas de l'archipel des Ryukyu au tout début du XVIIe siècle. Enfin, j'insiste sur la fermeté de la politique de fermeture du shogunat des Tokugawa à partir des années 1630. Donc là, je sais bien, j'ai dit fermeture, c'est un gros mot, il faut plus du tout parler de sakoku, il faudrait parler d'ouverture sélective, mais moi, je préfère sakoku. Voilà, je préfère sakoku parce que c'est un terme que je trouve extraordinairement expressif. Bien sûr que la Chine et la Corée ont aussi des politiques similaires dont s'inspirent les Japonais, mais enfin quand même, des millions de Japonais interdits de sortie, voire même à partir des années 1630, qui ne peuvent même plus rentrer dans leur pays. Imaginez-vous ça. Alors ça s'est fait, je sais, dans les années Covid, mais c'est extraordinaire. Ça s'est vraiment fait dans les années Covid, mais c'est extraordinaire. Donc je trouve que ouverture sélective, oui, d'accord, c'est subtil. Sakoku, c'est pédagogique. Voilà. Voilà, donc je parle de tout cela, qui, tout, tous ces événements, en fait, j'en parle comme des choses, comment dire, importantes, qui font que le Japon s'affirme et qui sont, je le répète, quasiment sans précédent dans l'histoire du Japon. Et donc, voilà. Alors, j'ai déjà dit que ce livre était un manuel. Mais pour être tout à fait exact, je dirais qu'il est tout de même un compromis entre le genre du manuel et celui de l'essai. L'essai, là où on dit ce qu'on a envie de dire. En ce sens qu'il pose quand même timidement une hypothèse, timidement, hein. En plus, j'aime pas les conclusions, donc du coup, je l'ai mise dans la conclusion. Il pose quand même une hypothèse dans donc la conclusion de la première partie, nos connaissances. Et cette hypothèse met en exergue le rôle joué par les Européens dans la métamorphose, ou autrement dit, dans la transition du Japon entre le Moyen Âge et l'époque moderne. Alors, excusez-moi, je vous présente un livre, donc du coup, je vais me citer. C'est le document numéro 2 que je vous ai distribué. Alors, on passe le autrement dit, parce qu'il faut avoir lu ce qui précède. Je pose l'idée que, je me cite, l'intrusion des Européens dans l'archipel, donc je rappelle à tout le monde, hein, dans les années 1541, semble avoir agi comme un catalyseur. Elle a participé à renforcer les données structurelles médiévales précitées, notamment en termes de conscience nationale qu'elle raviva et de disposition commerciale qu'elle encouragea, et maîtrisée par d'habiles dirigeants, là je pense aux trois hégémons et aux cinq premiers Tokugawa, et maîtrisée par d'habiles dirigeants qui gardaient à l'esprit le modèle ancien de l'État impérial shogunal réaffirmé, cette intrusion fut l'un des facteurs majeurs de la création d'un Japon nouveau. Fin de citation. Donc, ce Japon nouveau, c'est bien sûr le Japon moderne, celui qui s'affirme sur la scène internationale de l'époque de la première mondialisation. Alors, ceux des modernistes, alors, cette hypothèse s'inscrit bien sûr dans un contexte historiographique qui est celui-ci, des modernistes japonais ou japonisants qui réfléchissent à la transition du Moyen-Âge et des temps modernes. En fait, ont souvent tendance à mettre en avant des facteurs internes pour expliquer cette transition. D'abord, c'est souvent le XVIe siècle et c'est plutôt des facteurs internes. Par exemple, ils traitent de la question si importante de la transformation en profondeur des structures agraires et fiscales du Japon au tournant des XVIe et XVIIe siècles. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de toute la politique de Toyotomi Hideyoshi, les cadastres, etc. Voilà. Donc on parle beaucoup de cela. C'est évidemment une question absolument fondamentale. Et là, c'est mon vieux fond marxiste. Elle concerne les rapports de production. Elle est essentielle pour expliquer le changement d'une société, bien sûr. Cela dit, j'aime à penser quand même qu'il ne faut pas négliger les facteurs extérieurs, donc qui sont en dehors du Japon, pour penser la mutation sociétale, donc. Que j'aborde dans mon ouvrage comme un fait multidimensionnel et bien sûr multifactoriel. Alors là, je vais on parlait tout à l'heure de ce terme de première modernité qui n'est pas tellement accepté. De la même façon, je ne sais pas si vous savez ce qu'est l'histoire contrefactuelle. C'est pas très à la mode en France. Ça vous dit quelque chose? Non, je vois vos visages. L'histoire contrefactuelle, c'est quand vous posez des questions et si, et que vous essayez d'y répondre, et que ça vous permet, dans vos réponses, donc d'imaginer un futur qui n'a jamais existé, et de peser ainsi donc l'importance donc des causes. Je vous donne un exemple. Que se serait-il passé? Alors bon, c'est pas tout, bon là, c'est une conférence. J'assume le fait que c'est oral et que j'ai pas écrit ça dans mon livre. Hein. Voilà, c'est un livre sérieux, mais voilà, on est en droit quand même de se laisser aller un peu à l'oral. Donc je pose la question contrefactuelle. C'est une méthode hein, chez les Anglo-Saxons, hein, c'est sérieux hein, chez eux. Hein. Que se serait-il passé pour le Japon médiéval si les Japonais... Non, pardon, pardon, pardon. Je suis troublée de le dire. Si les Portugais ne s'étaient pas intéressés à l'Asie orientale dans les années 1510? D'accord? Bon, on va faire un scénario plus raisonnable quand même en termes d'histoire contrefactuelle. Que ce serait... Et là, je parle des Portugais, mais sachez qu'en fait, les Espagnols traînaient dans la zone. Hein. Oui, parce qu'on ne savait pas ce qu'il y avait de l'autre côté, donc la définition de comment dire, la ligne de Tordesillas, on ne savait pas ce qu'il y avait de l'autre côté. Donc voilà, il y avait des Portugais, il y avait des Espagnols. François Xavier en parle. même, dit aux Espagnols, il vaut mieux pas qu'ils traînent trop dans la zone que les Japonais, que les Portugais concevaient comme réservée pour eux. Donc, ma deuxième question contrefactuelle, que se serait-il passé si les Portugais, et c'est là que je pensais aux Espagnols, n'avaient pas eu accès au métal argent des mines d'Iwami du Japon, n'ayant alors aucune raison de s'installer au Japon, puisque la seule raison, au départ, en tout cas, pour que les Japonais arrivent au Japon, c'était sans doute cet attrait pour l'argent du Japon. Alors une réponse est peut-être, eh bien, il ne se serait rien passé de ce qui est finalement arrivé. Donc, cette transformation du Japon. Par exemple, il n'y aurait pas eu, on peut imaginer que les Chinois, enfin, non, parce que les années 1540 marquent quand même la fin de ce commerce officiel entre la Chine et le Japon, mais enfin, je veux dire, la fin, elle n'était pas écrite à l'avance, donc on peut imaginer que 20 ans plus tard, donc, les Chinois soient revenus à ces relations officielles. Je ne sais pas si vous avez très bien compris, ce n'est pas écrit sur mon papier, ce n'est pas grave, rien n'est parfait, je continue. C'était juste pour vous dire que. Si les Portugais donc n'étaient pas n'avaient pas été si non si les Portugais n'avaient pas mis la main sur ce commerce donc triangulaire Japon, Chine, Portugal relatif au métal argent. Eh bien, moi, je pense que si les Portugais n'avaient pas joué ce rôle, il n'y aurait peut-être pas eu de tentative de conquête de la Corée par Toyotomi Hideyoshi, ni peut-être de mainmise par les Japonais sur les Ryukyu, donc à partir de l'année 1609. Donc là, je suis dans l'histoire contrefactuelle. Hein. Je vous ai dit, à la mauvaise presse en France, je me laisse aller. Dans mon ouvrage, alors c'est un manuel, mais je me hasarde à quelques hypothèses. Je pose celle-ci en l'occurrence, qui n'est pas issue d'un raisonnement contrefactuel. Les premières formes d'impérialisme nippon, donc c'est clair, fin 16e, 17e siècle, furent sans doute inspirées par le modèle colonialiste ibérique de l'époque, et notamment des Portugais qui, enfin, il n'y avait pas que des Portugais, mais bon, voilà, les Portugais quand même avaient l'oreille des Japonais. Cela dit, donc, et pas chinois, le modèle n'est pas chinois, surtout pas en cette fin de l'époque Ming, il est à mon avis portugais. Cela dit, ce modèle chinois n'est pas oublié par Toyotomi Hideyoshi, qui n'a de cesse, à la fin du XVIe siècle, comme vous le savez peut-être, d'exiger à la mode chinoise des tribus de Goa, de Manille et de Taïwan, à la star donc des Fils du Ciel de l'Empire du Milieu. Alors, donc deux modèles qui se confondent peut-être, un d'origine chinoise, l'autre d'origine européenne. Voilà pour l'hypothèse donc qui vient clore ma tentative d'histoire contrefactuelle. Voilà. Donc ça, des Européens qui jouent un rôle essentiel dans cette métamorphose du Japon. Deuxième facteur, et c'est ce que j'expose dans mon livre, et c'est là que je sors du manuel, lorsque je prétends que la religion a joué un rôle essentiel dans cette transition, dans cette métamorphose entre époque médiévale et époque moderne. Alors, sur la religion, il se trouve que, donc ça fait partie du sous-titre de l'ouvrage, je suis sur les questions de religion que j'expose dans cet ouvrage, je suis à la fois dans le genre manuel et dans le genre essai. Donc, je vais vous dire ce que ça donne dans le genre manuel. Un manuel, c'est bah voilà, vous enseignez des choses, vous donnez des informations, et l'essai, vous faites des choix, vous posez des hypothèses, voire des thèses. Alors, pour la dimension manuelle de cette importance qu'aurait eu la religion dans la transformation du Japon entre le 15e et le 17e siècle, je m'attache dans la partie nos connaissances à exposer déjà le béaba de l'histoire religieuse. Oui, parce qu'il faut quand même bien dire que cette histoire religieuse, elle est accaparée par les japonologues, alors je ne sais pas si je vais avoir des ennuis ou pas, ou bien par de purs théologiens, enfin qui font l'histoire de la théologie, ou bien par des gens qui font purement de l'histoire sociale. C'est toujours difficile de porter les deux casquettes, histoire sociale des religions et histoire doctrinale des religions. Donc, je fais un peu de tout dans ce manuel et dans la partie des connaissances 15e, 16e, 17e. Je commence par la constatation déjà la plus élémentaire que vous. Qui vous est familière, mais je n'ai pas écrit ça uniquement pour des japonologues. C'est une collection donc qui est ouverte à tous les historiens de France et de Navarre. Et du coup, j'ai voulu quand même leur dire que la vie religieuse au Japon est quand même fondée sur le pluralisme, sur le syncrétisme et sur le polythéisme. Ça fait bien c'est bien de le rappeler. Et j'illustre cette donnée par des exemples historiques à la fois concrets et précis, par exemple des textes cités. Puis je présente, toujours dans la partie manuelle, une évolution des faits de religion, siècle par siècle. En termes de nombre de pages, quand même, mon exposé sur les religions fait quasiment un tiers de l'ouvrage. C'est beaucoup, mais j'assume complètement. Dans cette évocation, j'évoque tour à tour toutes les religions du Japon, le Shinto, le bouddhisme, le shinto-bouddhisme, bien sûr, cette forme syncrétique qui domine, la voie du yin et du yang, le confucianisme, je range le confucianisme dans les religions, petite parenthèse, les religions populaires, le christianisme, tels qu'ils étaient pensés par des théologiens, par exemple, et tels qu'ils étaient pratiqués par des gens du peuple, par exemple. Donc j'essaye d'être à cheval sur histoire sociale, histoire doctrinale. Très concrètement, il est question par exemple de la place du zen, évidemment, comment ne pas parler du zen en ces trois écoles, donc l'Inzai, Soto, Ōbaku. Je parle du Shinto, notamment celui de la famille des Yoshida, qui apparaît au XVe siècle, qui se diffuse au XVIIe. J'évoque l'importation du christianisme. Alors là, vraiment, j'ai fait 2 pages sur le christianisme, alors que ma collègue l'a dit. En fait, j'ai consacré plusieurs années. C'est là que vous vous sacrifiez un peu. Voilà. De 1549, date de l'arrivée de François-Xavier, jusqu'à bien au-delà de sa proscription de 1614. Voilà, ça c'est pour la dimension manuelle de l'ouvrage qui évoque les religions du Japon. Concernant la dimension essai, alors là, je me lance carrément dans une thèse, hypothèse, thèse, qui m'est tout à fait personnelle, selon laquelle, au XVIIe siècle, le fait religieux, a joué un rôle essentiel dans la construction de l'État des shoguns Tokugawa. Et là encore, je vais me citer moi-même, donc je vais lire lentement pour ceux d'entre vous qui n'ont pas la feuille sous les yeux, et je vais vous dire un peu ce que ça donne, et ensuite je vous explique parce que vous n'allez rien comprendre à la seule lecture de ce passage. Donc, je dis quelque part dans cet ouvrage qu'au XVIIe siècle, alors, les successeurs, ici, je parle de Tokugawa Ieyasu, le fondateur du régime. Au XVIIe siècle, ses successeurs suivirent sa voie avec plus ou moins de force, d'audace et d'originalité. C'est ainsi que, sur le long terme, en un processus dialectique, l'État des Tokugawa façonna la religion, d'une part, en définissant les confessions admises et les hétérodoxies honnies, et d'autre part, en organisant les institutions religieuses. Tandis que, de son côté, la religion, c'est-à-dire les doctrines et ses institutions, impacta cet État, c'est-à-dire son idéologie et les appareils de contrôle de groupes et des personnes. C'est en ce sens que l'on pourrait peut-être appliquer au Japon, au XVIIe siècle, le concept d'origine allemande de confessionnalisation, que je ne prononcerai pas ici en allemand, qui d'après, c'est une traduction, hein, qui d'après donc ses premiers promoteurs, les modernistes allemands bien sûr, Heinz Schilling et Wolfgang Renard, c'est les années 80, ces deux spécialistes-là, implique l'idée d'une articulation entre le développement des églises et celui des États du Saint-Empire, de la période dite, période moderne, et celle Donc, une articulation entre le développement des églises et celui des États du Saint-Empire de la période moderne et celle d'une disciplinarisation sociale, et ce, dans un processus global de modernisation, quand on parle d'État moderne. Voilà, alors le sens de ce passage est un peu obscur, bien sûr, j'ai lu rapidement. Je vais vous donner quelques exemples concrets pour vous dire comment je pense que la religion, l'économique, bien sûr, toujours en dernière instance, c'est-à-dire, comme le disait un de mes professeurs quand j'avais vos âges, en dernière instance, ça ne veut pas dire qui explique in fine quelque chose, mais l'économique par lequel on doit toujours passer si on veut comprendre un fait historique, mais le religieux aussi, pour comprendre cette transformation du Japon. Alors, quelques exemples concrets et bien connus d'ailleurs. Je vais vous en donner deux. Le premier d'abord concerne la manière dont l'État japonais a façonné la religion. Je songe ici à la promotion par l'État des Tokugawa des institutions du bouddhisme, c'est-à-dire des écoles de pensée, et les établissements du bouddhisme, ce qu'on appelle vulgairement un temple, pour empêcher la population de souscrire au christianisme à partir de 1614 et surtout sans doute en fait à partir des années 1660 pour surveiller cette population de manière quotidienne. Sans doute vous a-t-on parlé de cette inscription dans des registres, alors je mets des guillemets, hein, paroissiaux, de toute la population roturière, hein, pas les samouraïs, ni les gens de la cour, etc., dans des registres de temples, qui, en retour, donc, fournissent à leurs ouailles des certificats donc très concrets. On écrit que ces gens-là ne sont pas chrétiens. Ça leur permet de se déplacer à l'extérieur de la ville ou du village de résidence, de se marier, de faire des pèlerinages, de travailler, etc. Ces établissements dispensent évidemment, donc bouddhiques, un certain nombre de contre-espèces sonnantes et trébuchantes, un certain nombre de services, notamment les funérailles et les prières. Et c'est ainsi que, pour la première fois de son histoire au Japon, de sa longue histoire, le bouddhisme, qui, vous le savez, serait arrivé aux alentours du VIe siècle, en tout cas, on en a gardé des traces, que le bouddhisme s'ancre définitivement jusqu'à nos jours dans le territoire japonais, ce n'est pas avant le 16e ou le 17e siècle, ce qui n'empêche pas évidemment la prospérité des autres formes de religion, les syncrétismes shinto-bouddhisme, le shinto, surtout au 17e siècle, et la voie du yin et du yang. Donc voilà, pour moi, dans cette transformation, il y a cette affirmation de l'État moderne au Japon à travers donc le facteur religieux. Et puis, je vous ai parlé d'un second exemple. J'ai presque fini, hein, mon exposé. Je vous ai parlé d'un second exemple. C'est la manière dont, en retour, la religion façonne l'État. Et je pense ici à la mise en place d'une doctrine d'État dont vous avez dû entendre parler, qui, là encore, fait quasiment sans précédent, déifie une personne historique. Je pense bien sûr à Tokugawa Ieyasu, qui est vénéré donc au temple, enfin pardon, au sanctuaire Tōshōgu de Nikkō, qui se présente, enfin qui est présenté parce que lui était déjà mort, qui a été présenté donc comme un kami, avatar du Bouddha donc Yakushi, et qui donc marque la tentative par les Tokugawa, ni plus ni moins donc, de faire concurrence aux empereurs dans le domaine de la sacralité. Bon, qui organise des pèlerinages, ça ne va pas tellement marcher, mais le fait est. De toute façon, je m'arrête au XVIIe siècle, donc ce qui se passe après ne m'intéresse pas. En tout cas, voilà, j'ai pas trop le temps aujourd'hui de développer mon propos concernant l'affirmation de l'État à partir du XVIIe siècle, mais je voudrais quand même vous dire, et là de manière strictement sensible, que quand j'avais fait ma thèse sur le pèlerinage de Shikoku, bon, qui est bien connu aujourd'hui, mais quand j'avais fait ma thèse, il était absolument inconnu. On s'est même moqué de moi. C'est quoi cette thèse sur un pèlerinage que personne, qui n'intéresse personne? Les 88 lieux saints qui font le tour de l'île de Shikoku. Bon, j'avais été marquée, et donc ce travail sur le livre m'a rappelé mes premières émotions d'historienne du Japon. Quand vous avez affaire, non pas, il y a des dizaines de millions de sources japonaises, hein, pour l'époque moderne, 16e, 17e, 18e, etc. Donc évidemment, je n'ai pas fréquenté des millions, des dizaines de millions de sources. Mais voilà, cette affirmation de l'État et de ces millions de sources, dizaines de millions de sources qu'il produit a véritablement de quoi impressionner l'historien. Qui observe que pour la première fois, alors encore de son histoire, l'État japonais réussit à contrôler, pas tout le monde, bien sûr, il y a toujours des populations flottantes, mais quand même un nombre très impressionnant de personnes, et fait son boulot d'État, c'est-à-dire, donc, et là je me lance dans une deuxième définition, contrôle des personnes, notamment via les temples, monopoliser la violence, on n'a même plus le droit de se tuer à la mort de son maître. À partir des années 1650, organiser la ponction fiscale, qui reste la grande fonction étatique, bien sûr, entretenir une bureaucratie, quand je parle de l'État, c'est impérial shogunal et j'inclus les fiefs dedans, promouvoir des idéologies de légitimation, ça c'est la moindre des choses pour un État. Bref, pour reprendre le fameux concept du philosophe Ludwig Wittgenstein, créer un État qui présente un air de famille, c'est ça le concept, un air de famille avec ses homologues européens contemporains, et là je pense bien sûr à la France du XVIIe siècle. Alors, pour une historienne qui, comme moi, est avide de comparaison, ça sera d'ailleurs l'objet de mes prochains travaux, Cette ère de famille, évidemment, n'est pas le moindre des charmes de l'époque des Tokugawa. Alors, je m'aperçois que le temps passe et je vais arrêter mon discours là parce que je voudrais quand même qu'on puisse, qu'on ne m'avait pas posé de questions, tant je suis, qu'on puisse échanger. Je sais que mon collègue a prévu donc un temps de parole. Je voulais juste vous parler dans une seconde partie. Ben justement, de ma deuxième partie. Donc, pour faire court, j'y présente toutes sortes de sources, sans aucun souci d'agressivité. Ces sources sont innombrables. J'y présente donc en 35 pages environ, non, je vais avoir l'air de me vanter, 35 pages environ, donc le travail de tous les historiens qui, de 1392, quand même, je prends les premiers, jusqu'en 2000, bah, jusqu'à l'époque où j'ai écrit le livre, donc jusque dans les années 2022-2023, ont écrit sur la période. Et là, je crois, rendre hommage à ces historiens japonais, quand même, qui sont tout à fait exceptionnels, il faut le dire, et ça ne le sait pas. Et je répète, puisque donc Aude avait évoqué l'encyclopédie des historiographies, que l'encyclopédie des historiographies Afrique, Amérique, Asie part de ce constat malheureux que les historiens japonais et leur immense travail, leur génial travail, est absolument inconnu. Ce n'est pas juste. Donc, j'ai voulu leur rendre hommage et rendre hommage à tous les autres en Afrique, en Amérique latine et en Asie, dont on ne parle jamais, surtout en France, où nous sommes si fiers, et nous avons quand même raison, de notre historiographie. Voilà, donc ça c'est la deuxième partie, et puis ensuite j'ai la deuxième partie de la seconde partie, et la troisième partie, une bibliographie bien sûr. Alors vous avez, je sais pas moi, des millions de livres peut-être, enfin je sais pas, des centaines de milliers, c'est clair. Des millions, oui, peut-être 2 millions, 1 livre d'histoire sur le Japon. Vous avez des millions de livres sur l'histoire du Japon, en japonais, au Japon. Et comme ici, nous sommes fort peu nombreux à parler de japonais, du coup, j'en parle pas. Et bizarrement, ma bibliographie est donc occidentale. Mais voilà. Alors, je termine. Et je vais terminer par un poème de Basho. Là, quand même, j'ai cherché, hein, j'ai tourné toutes les pages et je me suis dit. Où est-ce que Bachot, où est-ce que je vais pouvoir comment dire, le retrouver, ce Bachot qui a donc ouvert mon discours. Et alors attendez, il faut quand même je trouve quand même le lien. Ah oui, ah ben, non, mais ça c'est oui, en fait c'était le lien, il est là, je vous l'explique parce que c'est pas évident. En fait, c'est l'idée que derrière cette montagne d'ouvrages de ma bibliographie, donc qui comprend des ouvrages occidentaux, derrière cette montagne, là. Il y en a une autre bien plus grande, c'est celle des Japonais. Et dit par Basho, enfin interprété par moi aussi, ça donne ceci. Toujours mes deux traducteurs, là, Kenmoku Makoto et Dominique Chipot. Kiri Shigure, Fujio Minuhizo Omoshiroki. Brumes et brouillards, le mont Fuji dissimulé, tout l'attrait de cette journée. Voilà, j'ai fini.